Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Sur le podium, devant le stade de Mexico lors des JO et devant 400 millions de téléspectateurs, deux athlètes ont suivi votre conseil, Stéphane.
Oh les mains !
Ils ont même fièrement levé les poings. Je pense que c'est peut-être la 47e fois qu'on le diffuse. Ils ont même fièrement levé le poing, ganté, symbole de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Stéphane Bern nous raconte Tommy Smith et John Carlos, deux sprinteurs entrés dans l'histoire à coups de poing.
Il est 19h17, heure locale de Mexico, ce 16 octobre 1968, lorsque le drapeau des États-Unis est hissé vers le ciel et que le Star Spangled Banner retentit. L'hymne national américain retentit devant les 83 700 spectateurs du stade olympique venus assister à l'une des épreuves reines des JO, le 200 mètres. Au centre du stade, sur le podium, deux hommes viennent d'achever leur course et de faire vibrer la foule. Tommy Smith, 24 ans, médaille d'or sur la poitrine, et son coéquipier et camarade de classe, John Carlos, 23 ans, revêtu, lui, du bronze. Soudain, les deux athlètes victorieux lèvent le poing, chacun recouvert d'un gant noir. Tommy Smith à la main droite, John Carlos à la main gauche. Les deux sprinteurs qui ont déposé leurs chaussures au pied du podium sont en chaussettes noires, comme un symbole de la pauvreté des Afro-Américains. Autour du cou, ils portent un foulard en hommage à l'oppression et à l'esclavage des hommes noirs aux États-Unis. Des noirs comme eux, malgré leur performance, Tommy Smith et John Carlos n'esquissent pas le moindre sourire et préfèrent baisser la tête sans regarder le drapeau de leur nation, célébré dans le stade et devant les caméras du monde entier. Dans son autobiographie, Tommy Smith déclarera plus tard que ce geste n'est pas, comme cela a été souvent avancé, un salut du Black Power, mais un salut pour les droits de l'homme. Car cette image que personne n'a oubliée n'avait qu'un seul but, devenir un symbole de la lutte pour les droits civiques. En 1968, aux États-Unis, le combat racial fracture toujours la société. Oh, des avancées ont bien eu lieu. L'interdiction de la ségrégation scolaire, l'obtention du droit de vote pour les personnes noires, l'autorisation des mariages mixtes. Mais des inégalités subsistent toujours dans l'accès à l'emploi, au logement ou encore à l'éducation. 6 mois avant les Jeux Olympiques de Mexico, le leader de ce mouvement pour les droits civiques, le pasteur Martin Luther King, est assassiné. Plus les JO se rapprochent, plus le climat ne cesse de se tendre. En juin, Bobby Kennedy, sénateur et frère du président assassiné John Kennedy, est tué à son tour, le corps criblé de plusieurs balles après un meeting en Californie. 1968 est donc une année sous haute tension aux États-Unis. Guerre froide, guerre du Vietnam, discrimination raciale. Les athlètes noirs américains se demandent même si pour faire entendre leur voix, ils n'auraient pas tout intérêt à boycotter les Jeux Olympiques à venir. Pourquoi devrions-nous participer pour un pays, se donner à 100% et rentrer chez nous, où sont niés certains des droits qui nous reviennent légalement, explique Smith, le futur vainqueur du 200 mètres, quelques temps avant. Le président du Comité international olympique, Avery Brundage, n'hésite pas à répondre à ses athlètes frondeurs par caméra interposée. Pour lui, un boycott ne se ferait qu'au détriment des athlètes eux-mêmes. Les Jeux sont l'un des domaines où les Noirs et autres minorités ont toujours été traités de manière équitable et où ils ont pu montrer leur talent. Brundage ne pense pas, je le cite, que ces garçons seront assez bêtes pour protester pendant ces Jeux et s'ils s'avisent de le faire, ils seront vite renvoyés chez eux. Et pourtant, la guerre entre le comité olympique et les athlètes afro-américains est déclarée. Si les athlètes ont décidé de se rendre au Mexique pour porter haut les couleurs des États-Unis, ils comptent bien profiter de cet événement planétaire pour inviter la politique au cœur de la compétition. Et Tommy Smith et John Carlos sont déterminés à y prendre part à leur manière. Il faut dire qu'en parallèle de sa brillante carrière dans l'athlétisme, Tommy étudie la sociologie à l'université de San José. Le sport occupe une part importante de la vie du garçon, 7e d'une famille de 12 enfants. Mais la place que chaque homme occupe sur Terre lui tient également à cœur. Et particulièrement la condition des Noirs au sein de la société américaine. Mais pour espérer marquer à jamais l'histoire des Jeux Olympiques et celle des Afro-Américains, Tommy Smith et John Carlos ont une mission. Se qualifier pour la finale du 200 mètres. Défi relevé pour John Carlos. Tommy Smith, lui, se fait une petite frayeur. Alors qu'il remporte sa demi-finale, une fois passé la ligne d'arrivée, le sprinter boite et se tient la cuisse. Le diagnostic tombe, il souffre d'une élongation. Certes, les deux hommes ont obtenu leur ticket pour la finale tant convoitée et font figure de leader pour l'ultime course à la victoire. Mais si Tommy déclare forfait, son projet de mettre en lumière la ségrégation raciale aux États-Unis tombe à l'eau. Il ne peut pas se permettre d'échouer si près du but. Il doit absolument faire abstraction de ses petits pépins de physique pour aller décrocher l'or olympique. Tommy Smith est un battant. Cette finale du 200 mètres, c'est plus qu'un rêve de gosse. C'est l'unique occasion de changer le sort de toute une communauté, de tout un pays, le sien, les États-Unis. Cette course, c'est d'ailleurs plus la sienne, mais celle de tous les Afro-Américains bafoués dans leur dignité. Quand le coup de feu du départ retentit, Tommy Smith et son coéquipier John Carlos ne courent plus pour la prouesse sportive. Ils sont déjà au-delà. Ils survolent la piste pour le combat racial. Ils griffent le sol en tartant pour répondre personnellement à chaque blessure subie par leurs frères de peau. Ils engrangent les maîtres comme autant de micro-victoires sur les suprémacistes blancs. Ils sentent le vent gifler leurs jambes comme les balles fusent au quotidien dans la chair de leurs cousins noirs. Personne ne pourra leur enlever cette victoire, ni leurs adversaires du jour, ni les spectateurs, ni le comité olympique. 5 mètres avant la ligne d'arrivée, malgré la douleur à sa cuisse, Tommy Smith lève les bras en signe de victoire. Si aux États-Unis les Noirs sont relégués au second plan aujourd'hui à Mexico, cet athlète de 24 ans va les remettre symboliquement en pleine lumière. Les flashs crépitent. Tommy Smith vient de battre le record du monde du 200 mètres en 19 secondes et 83 centièmes. John Carlos décroche la 3e place, le bronze. La suite, vous la connaissez déjà. L'arrivée devant le podium, les chaussettes noires, le poing levé pendant l'hymne, mais pas seulement. Des sifflets fusent de la bouche des spectateurs présents, car cette intrusion de la politique dans une épreuve sportive n'est pas du goût de tous. Tommy Smith l'évoquera quelques années plus tard. Les réactions ont été terribles parce que j'ai levé le poing en direction de ce qui est censé être notre plus belle création, le drapeau américain. Radiés à vie des JO, Tommy Smith et John Carlos reviennent aux États-Unis amputés de leur médaille, mais auréolés du sentiment d'avoir fait leur devoir. Jusque dans les années 80, les deux sprinteurs seront considérés comme des parias. Pourtant, un homme n'a jamais douté de la portée de leur geste. Un certain Peter Norman, l'athlète australien, qui a fini 2e de la course. Il a même porté volontairement sur le podium le badge du projet olympique pour les droits de l'homme. Lui aussi sera sanctionné par sa fédération. À sa mort en 2006, Tommy et John se rendent en Australie et portent même son cercueil en hommage. Tommy Smith et John Carlos sont eux toujours bien vivants. Reçus en 2016 à la Maison Blanche, ils sont intronisés en 2019 au Hall of Fame du Comité olympique et paralympique. Une preuve supplémentaire qu'ils n'ont pas levé le poing pour rien, bien au contraire.
Europe 1, historiquement vôtre.